Les chroniques de la plume.
Salutations, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix.
Chef Lédé, il dit que s'il connaissait le con qui a fait sauter le pont.
Pourquoi ?
Hein ?
Pourquoi ?
Parce qu'on peut le faire !
Je ferai ça toute la journée.
Ouais, je sais.
Je suis au courant.
Hello there.
Et bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de RVM, c'est Melvin pour la chronique de la plume. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très très spécial. Le premier chapitre apparaît dans le Weekly Shonen Jump le 20 novembre 1984. Devenu aujourd'hui un emblème et le visage du manga shonen, carrément le papa du registre du shonen. Obtenant même sa fête nationale le 9 mai, à savoir.
Ah ouais.
Oui. Il est pour beaucoup l'être le plus puissant du 7e art. Akira Toriyama a créé son chef-d'œuvre, une œuvre qui lui a peut-être échappé vu l'ampleur du phénomène. Parlons du manga le plus culte, marquant même plusieurs générations. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, parlons ensemble de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Alors, tout d'abord, on va résumer dans les grandes lignes que ce que raconte Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc on va vraiment aller à l'essentiel, on résume tout ça dans les grandes lignes. Sangoku arrive sur Terre chez un vieux monsieur nommé Sangohan. Sangoku, pris par une nuit de pleine lune, se change en Ozaru. L'Ozaru, pour ceux qui auraient oublié, c'était ça. Voilà, donc un cri à faire frémir plus d'un, je pense.
Carrément. Hein.
Donc en gorille géant, on appelle ça l'Ozaru dans le domaine de Dragon Ball. Et malheureusement, voilà, il aura une chute qui lui fera perdre la mémoire. Malheureusement, son grand-père Sangohan décédera, le laissant livré à lui-même. Il rencontrera bien sûr des amis, Bulma, Krilin, Yamcha, tout ça. Et au fur et à mesure de son aventure, il va aussi rencontrer un homme essentiel dans la vie de Sangoku, Kame Sennin, nommé Tortue Géniale en VF et Jackie Chan aussi dans Dragon Ball. Ce dernier d'ailleurs entraîne Krilin et Goku Budokai Tenkaichi, donc les tournois d'arts martiaux, et leur enseigne la technique la plus emblématique de Dragon Ball, qui est le Kamehameha. Écoutons. Une attaque devenue culte aujourd'hui qui est même la marque de fabrique de Sangoku. On y introduit aussi Piccolo et le Tout-Puissant. Il y a ensuite, passons à Z. Goku, marié avec Shishi, a eu un enfant, Sangohan, rendant hommage à son grand-père. Il le présente donc à tous ses amis. Malheureusement, un individu mystérieux débarque devant eux, se dévoile comme étant la prochaine menace que devra affronter Sangoku. Il se présente Raditz comme étant le frère de Sangoku. Écoutons donc cette rencontre qui était forte en tension déjà pour le début de Dragon Ball Z.
Oui. Maintenant, on veut des explications. Et pour commencer, qui es-tu ?
Reprenons depuis le début. Tu dois déjà savoir que cette planète n'est pas la tienne, Kakarot. Tu viens d'une planète lointaine appelée Vegeta, où vivait le peuple Saiyan, les guerriers les plus puissants de l'univers. Tu es un guerrier Saiyan.
Un guerrier Saiyan ?
Et pour répondre à ta question, je m'appelle Raditz. Je suis ton grand frère.
Comment ça ? Son Goku a un grand frère ?
Quoi ? Mais c'est une blague, non ?
Tu dis n'importe quoi !
Il a raison ! Si Goku est vraiment un extraterrestre, alors qu'est-ce qu'il fait sur Terre, hein ?
Ce n'est pas difficile à comprendre, Kakarot. Tu as été envoyé sur cette planète juste après ta naissance pour remplir une mission précise : détruire l'espèce humaine.
Quoi ?
Nous autres, les Saiyens, nous sommes un peuple de fiers guerriers, mais nous sommes aussi des conquérants. Nous parcourons l'univers à la recherche de planètes habitables, et nous les nettoyons de leur population. Ensuite, nous les vendons aux plus offrants. Pour les planètes peuplées de combattants, nous envoyons nos guerriers adultes les affronter. Mais pour les planètes comme la vôtre, où la forme de vie est inoffensive, nous envoyons de tout petits enfants comme toi.
Voilà donc les révélations de comment Son Goku est aussi fort, comment il est arrivé sur Terre. Toutes ces explications nous sont données dès le début de Z avec le personnage de Raditz. Goku s'allie donc avec Piccolo pour battre Raditz, mais malheureusement succombe à ses blessures. Mais Raditz annonce l'arrivée de deux grands Saiyan. Vegeta, le prince des Saiyan, arrive avec son allié Nappa et s'enchaînent les autres arcs, Freezer, Cell et ensuite Boo. Passons maintenant au débat et quel mauvais animateur je fais, je n'ai même pas encore présenté mes invités, je viens de le remarquer. Bonjour à toi Pierre-Alexis, de retour pour parler de Dragon Ball, bonjour à toi.
Bonjour.
Bonjour à François, nouveau venu du coup pour nous parler avec nous de Dragon Ball.
Enchanté.
Et à Ryan, de retour aussi pour parler de Dragon Ball.
Bonjour.
Donc commençons donc ce débat tous ensemble. Déjà, quel est votre arc préféré? Pierre-Alexis, commence.
Allez. Bon, déjà, Dragon Ball, comme j'ai pas trop regardé, ça sera... Dragon Ball Z.
D'accord.
Mais je l'ai toujours dit, pour moi, c'est l'arc Cell. Hein.
L'arc de Cell, vas-y, développe.
L'arc Cell, tout simplement. Bah déjà, le personnage principal, c'est pas vraiment Goku. Mm-hmm. À ce moment-là, c'est plutôt Gohan.
Exact.
Très gros développement. On apprend aussi, bah, du coup, les androïdes, une toute nouvelle menace. Surtout celle qui vient du futur.
C'est ça.
Quelque chose qui vraiment. On se dit, mais comment ça, le voyage dans le temps?
C'est ça, et puis l'arrivée de Mirai Trunks, l'histoire
ouais,
du futur.
Mirai Trunks, après, comme quoi aussi il sauve Goku du cancer.
Exact. C'était un cancer ou
la maladie? C'était un cancer, je crois. Hein.
J'ai cru que c'était une pneumonie, moi, de souvenir.
Ah bon?
Ouais.
Tu crois?
Je suis pas sûr. Bon, il avait une grande maladie, je sais plus laquelle, mais.
Mais en tout cas, oui, en tout cas, il y avait juste Mirai Trunks qui pouvait le soigner.
Exactement, un remède venant du futur.
Exactement. Et aussi Cell, le personnage, le Cell Game. Le fait qu'il est juste venu juste pour s'amuser, et c'était un enfant, Cell, hein, qui a très vite évolué.
C'était un personnage qui n'était pas vraiment méchant, c'était juste quelqu'un qui avait envie de se battre comme un
ouais,
Saiyan.
C'est ça, hein. C'est ça, son objectif c'était de voir... il voulait juste voir le visage de terreur sur les gens, puisque ça le faisait abuser. En soi, il n'avait pas le désir comme Freezer de détruire la planète ou autre.
Non, il n'avait pas d'ambition en fait en soi, à part faire un tournoi.
Exactement, hein. Il voulait juste s'amuser, et puis la finalité, comme quoi, bon... Gohan qui perd son ami C16, c'est bien ça.
C'est ça.
Super Saiyan 2, première fois vue. Hein.
Et puis une des scènes marquantes de l'animé, hein. Je pense que ça aura marqué beaucoup, beaucoup d'entre nous.
Oh là là là.
Je sais pas si elle aura autant marqué que la première transformation de Goku, mais elle aura bien marqué pas mal d'esprits quand même.
Je pense, oui. Je pense que surtout cette scène elle a beaucoup de valeur. De toute façon.
Symboliquement, oui.
Oui, on apprend que les Saiyans deviennent forts.
Avec la colère.
Exactement, donc en voyant comment il s'est fait terminer Cell, je pense que Gohan est rapidement devenu l'un des personnages les plus appréciés, malgré son développement après. Mais...
Malgré ce qu'il est devenu, on en parlera volontiers plus tard. Et toi François, quel est ton arc préféré dans Dragon Ball?
Alors moi je suis du même avis que Pierre-Alexis, c'est-à-dire qu'on voit cette fois-ci Son Gohan et plus Son Goku. Mm-hmm. Ouais. Plus de ça, ce que j'ai bien aimé, c'est que Son Gohan, qui n'a pas d'expérience, il essaie de raisonner Cell, et malheureusement, ouais. Comme Cell, il est, on va dire, démoniaque.
Bah, c'est un droïde qui n'a pas de sentiments, en
oui,
fait,
c'est
en
ça.
Soi.
Donc, en gros, il s'en fout, en fait. Il veut simplement prouver qu'il est le meilleur.
C'est ça.
Et malheureusement, c'est Cell qui se fait écraser par Cell. Et donc, à ce moment-là, Son Gohan a un déclic.
A remarqué d'ailleurs hein, que C16 demande à Son Gohan de protéger la nature et de veiller sur les animaux. On le voit quelques épisodes plus tard se taper un bon gros dinosaure. Merci C16 de ton intervention, tu as bien marqué Gohan, il a respecté ta dernière volonté. T'inquiète pas frérot, on est ensemble.
Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'innocence de Gohan qui a totalement disparu après la mort de C16.
La mort de l'innocence de Gohan, c'est quelque chose qui a été développé déjà avec son entraînement avec Goku dans la salle du temps.
Ouais.
Donc déjà là, Goku le poussait un peu dans ses limites et on comprenait déjà que Gohan allait prendre une très grande importance dans l'histoire. Quoi.
Surtout qu'il a été obligé.
Il a été obligé, oui, parce que Goku ne laisse pas le choix à ses enfants. C'est un père autoritaire.
Oui.
On plaint Trunks, mais je vous rappelle que Vegeta n'est pas le pire des darons.
Ah non, clairement pas. Hein. Clairement pas.
Et toi, Ryan, quel est ton arc préféré?
L'arc debout.
L'arc debout, vas-y, développe.
Parce que en soi, c'est vraiment... Donc la fin de Dragon Ball Z. Mmh. Mais en soi, il y a beaucoup de... À dire le sacrifice de Vegeta, comment Boo a pu détruire beaucoup de villes et a transformé beaucoup de personnes, ne serait-ce qu'en bonbons ou en chocolat.
C'est ça. Puis moi, je me rappelle d'une scène qui m'avait particulièrement touché, où on voit Boubou, le monstre, qui voit un enfant aveugle. et qui lui redonne la vue pour que l'enfant ait peur de lui. Et quand il voit que l'enfant n'a pas peur, là, il commence à avoir un déclic en mode « je comprends pas, pourquoi on n'a pas peur de moi ?» Et là, on y voit un petit peu qu'en fait, le monstre Boubou, le terrible Boubou, c'est pas le méchant qu'on pensait en fait au final.
Le démon rose, hein, je crois, son,
ah, peut-être.
Son surnom. Ouais.
J'avoue, j'ai mis des extraits pour nos auditeurs auditrices en français, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la VF de Dragon Ball Z, ni même de Dragon Ball, puisque moi je l'ai regardé en VOSTFR, voilà, par plaisir, je préférais.
Les voix originales sont pas mal, oui.
Et autre chose peut-être qui t'a marqué dans l'arc de Boo ?
Ne serait-ce qu'en soi que Boo devienne gentil avec un chien au début, et après se développe au fur et à mesure à devenir gentil avec des humains, tout ça, ne serait-ce qu'au début avec Monsieur Satan.
Ah, l'arc avec Monsieur Satan, quand ils sont à la maison, des épisodes très très touchants.
Donc, certes, il y a vraiment... C'est un bon arc.
Puis la découverte de la fusion, un Gohan ultime, on a eu beaucoup de moments marquants, effectivement.
Genki-Dama.
Le Genki-Dama, le fameux Genki-Dama de Son Goku.
Oui.
Avec la puissance de toute la Terre, hein, qui devant sa télé n'avait pas levé les mains en l'air, Son Goku le demandait. Autre question, votre top 3 de personnages préférés dans Dragon Ball, si vous en avez plus... 5 maximum, mais essayons de citer 3 personnages. François, je te laisse commencer.
Premier, je mettrai Goku.
D'accord, logique.
Ouais, logique. Deuxième, je mettrai Vegeta, parce qu'il est très très fort et je l'aime bien aussi, personnellement. En troisième, Piccolo, il est très sous-estimé alors qu'il était souvent là pour Gohan.
Oh, il commence à être... Bon, on n'en parlera pas dans cette émission, nous s'arrêterons à Dragon Ball Z.
C'est un autre sujet.
Mais quand nous ferons une émission sur Dragon Ball Super et Dragon Ball GT, nous évoquerons évidemment les évolutions de personnages, dont celui de Piccolo qui commence à être remis à sa juste valeur en ce moment. Mais c'est vrai que dans Z, plus le temps passait, plus il était sous-estimé. Et à toi, Ryan ?
Moi, en premier, je mettrais vraiment Vegeta.
D'accord.
Parce que, on va dire, Vegeta, vraiment, c'est quelqu'un qui est, pas comme Goku. Parce que Goku passe plus de temps à s'amuser, tandis que Vegeta est sur l'entraînement. Quelqu'un vraiment qui s'entraîne pour se développer.
C'est la contradiction de la personne un peu paresseuse qui obtient tout ce qu'elle veut dans la vie contre la personne qui travaille de façon acharnée pour avoir ce qu'elle veut. C'est l'une des raisons de leur rivalité aussi en soi.
C'est ça.
Et ensuite ?
En deuxième, je mettrais Goku.
D'accord. Bon, à peu près, ouais.
Et en troisième, je mettrais Broly aussi.
Broly. Ah, Et oui, nous évoquerons aussi les films Dragon Ball et Dragon Ball Z lors de cette émission. Donc, les personnages de films sont comptés dans votre top, jamais ça doit changer pour toi, François. Et toi, Pierre-Alexis, quel est ton top 3 de personnages de Dragon Ball ?
Alors, en vrai, premier, je dirais Mirai Trunks.
J'aime
bien Mirai Trunks. Après, bon, là, on parle sur Super, parce qu'il a eu... un bon développement quand même avec un certain arc, mais même en général
dans Dragon Ball Z,
exactement, de toute façon
on réclame son retour,
bien sûr, et comment il a découpé Freezer, hein, on s'en rappelle,
on n'était pas prêt, il l'a découpé comme un panini.
carrément
pour ceux qui ont la référence de la musique.
Totalement, et surtout un Saiyan qui se bat avec une épée, c'est quand même original, quoi.
Et puis une épée qui ne vient pas de nulle part, hein, vu que le film sur Tapion nous montre d'où vient les origines de l'épée. Bon, peut-être pas de Mirai Trunks, mais du potentiel. Après, vu que les films ne sont pas canons, c'est compliqué.
C'est compliqué. Hein.
Moi, le film Tapion, voilà, pour les origines de l'épée de Trunks, à part la musique, c'était pas ouf, je trouve.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
La musique est d'une beauté. C'est dommage que je n'ai pas eu l'extrait. J'aurais bien voulu mettre un petit fond de la musique.
Ouais, c'est vrai que c'est
ça. Ça aurait été regrettable.
Après, en deuxième personnage, je dirais Piccolo. Piccolo, tout simplement, comme l'a dit François avec Gohan, qui est en soi un deuxième père pour Gohan, on peut complètement le dire.
Peut-être même le premier en soi.
Ouais, c'est vrai. Et en soi. Carrément. Et pour le troisième, compliqué, mais je dirais peut-être Kame Sennin, Tortue Géniale.
Tortue Géniale pour la version française, oui.
Tout simplement, de toute façon, il nous a marqué, hein. Il nous a totalement marqué de par le fait que c'est le maître
le premier
de Goku
à avoir Bulma nu.
Ouais, totalement. Et surtout ses côtés pervers, quoi, qui a fait déconner.
Le début du rituel de chaque maintenant shonen d'avoir un vieux pervers dans son manga.
Mais totalement. Surtout qu'on s'attendait pas qu'il ait une forme super baraquée.
Oui. Et puis l'inventeur du Kamehameha.
Eh oui, qu'il a pris plus de 50 ans, je crois.
C'est ça. Alors que Goku, en 10 minutes chrono, il l'avait appris.
Oui, c'est un Saiyan. Mais après, voilà, il y a Yamcha qui le maîtrise quand même, donc il faut se dire.
Écrit-là.
Écrit-là. On n'en parle pas assez. Mais...
Krillin qui est l'être humain le plus fort hein, en soi.
Oui. Même si pour moi, je pense que Tortue Géniale était plus fort.
À son apogée. Ouais, à son prime. Pense. Peut-être. Bah après, il n'avait pas son Kamehameha à son prime.
Ouais, c'est vrai. Mais il avait le Mafuba.
Il avait le. Mais je... c'est pas lui qui l'a inventé, le Mafuba.
Non, c'est le maître de Tortue Géniale. Je
sais pas si c'est des. Bah après, pour le... vous, auditeurs, auditrices de RVM, pour petite info, moi, Dragon Ball, quand Son Goku il est petit, j'ai pas beaucoup suivi. Je l'admets, je l'avoue, j'ai pas beaucoup suivi. Parce que c'était pas des arcs qui m'intéressaient. J'ai regardé des résumés, j'ai essayé de m'informer un maximum. Mais Dragon Ball avec Son Goku petit, ça ne m'a pas impacté, ça ne m'a pas touché. Que Z, ça m'a pris tout de suite. Je sais pas pourquoi, alors que c'est quand même le début, c'est le commencement, c'est la découverte, Dragon Ball.
Bien sûr. Surtout mais... qu'il y a beaucoup de références dans Dragon Ball.
C'est ça. C'est
un peu. Son Wukong, par exemple. Pour Son
exactement.
Goku. On en prend beaucoup, hein, avec son bâton, les nuages magiques, Lozaru.
Exactement.
Qui est un singe, littéralement. Donc,
Moi, si je devais faire mon top 3 de personnages préférés, en première position, je mettrais Vegeta, parce que pour moi, le prince des Saiyans, la fierté. Puis tous ces moments emblématiques, marquants, et puis l'éternel débat, Vegeta ou Son Goku, qui est le plus fort. Je me battrai corps et âme pour vous dire que Vegeta est un grand gagnant, malgré tout ce qu'on peut y penser. Et en deuxième position, je mettrai quand même Son Gohan. Il a eu ses moments de gloire dans Z. C'était plutôt dans Super et GT qui nous a déçus.
Ouais, carrément.
Mais dans Z, moi, j'ai adoré Gohan. Et puis, en troisième position, je sais pas si on peut vraiment le compter comme un personnage, mais ça serait la fusion de Goten et Trunks.
Gotenks, ouais.
Parce que j'adore son ego quand il se laisse aller à narguer ses ennemis.
Avec ses fantômes.
C'est ça, l'attaque des fantômes. Là, moi, j'ai adoré. Je sais pas, ces combos, même dans les jeux vidéo, c'était incroyable. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Gotenks. Donc, si on peut compter les fusions, ça serait Gotenks. Sans compter les fusions, je dirais potentiellement Broly. Parce qu'il m'avait terrifié la première fois que je l'ai vu. Et je pense que, comme beaucoup, hein, le premier film, il avait beaucoup, beaucoup marqué.
Voilà,
ça serait, sans compter Gotenks, ça serait Broly. Autre question, quel est le meilleur film à vos yeux de Dragon Ball, Dragon Ball Z? On parle de Broly, on parle de Coolers, on parle de Slurg, on parle de tous les films Dragon Ball, C13, même avec Kalik. Je crois que c'est ça, le petit bonhomme vert là.
Ouais,
Garlic.
Donc voilà, quel est à vos yeux le meilleur film Dragon Ball? Ryan, je te laisse commencer.
En soi, franchement, je dirais celui de Janemba.
Janemba. Donc le film La Fusion.
C'est ça. Avec la fusion...
Gogeta.
Parce qu'en soi, c'est vraiment quelque chose de marquant.
Puis Janemba était incroyable comme méchant antagoniste.
C'est un méchant vraiment incroyable.
Puis il était très très fort quand même, hein, pour l'époque où il est sorti, hein, Janemba. Ça a été limite un méchant de super, on n'aurait pas été étonné. Hein.
Bah, c'est l'apparition de Gogeta et aussi la technique où il purifie l'âme.
Avec sa boule qu'il a dans les mains.
Ouais,
qu'il...
c'est ça.
Je ne retiendrai jamais le nom de cette attaque, mais elle est
châtiment spirituel.
Merci.
Merci pour ça.
On a le Wikipédia Dragon Ball avec nous. C'est exactement pour ça qu'il a été invité, je vous le dis. Il est une encyclopédie Dragon Ball à lui tout seul. Demandez-lui n'importe quelle page Wikipédia, il la connaît par cœur parce que c'est lui qui l'a rédigée. Merci du coup pour le nom de la technique. Le châtiment spirituel est une technique incroyable. Et c'est cette technique, moi, qui me fait même préférer Gogeta, Vegeto. Et j'avoue, le film était incroyable. Puis Paul Kwan qui a été mis en avant. Après, oui, malheureusement, ce qui se passe sur Terre, c'était pas ouf. Ça, c'était le petit bémol. Mais sinon, un très très bon film. Et toi, François?
Ah, pareil. La fusion.
La fusion aussi.
La fusion. Pour les mêmes raisons que Ryan.
Gogeta, il a marqué.
Ah, Gogeta,
c'est celui qui m'a marqué.
C'est un des personnages les plus réclamés avec Broly, hein, d'un côté.
C'est vrai.
Et toi, du coup, Pierre, quel est ton film préféré?
Alors, les anciens films, si je pourrais dire, ceux qui sont sortis à peu près au même moment que Dragon Ball Z, etc., je les ai pas vraiment vus. Donc, c'est pour ça que je dirais quand même Broly, mais le nouveau.
Ça serait plutôt dans Dragon Ball Super, du
exactement,
coup.
Exactement, ouais. Le retour de Broly, Gogeta, etc. Nouvelle histoire pour Broly.
Mm-hmm.
Qui est plutôt pas mal en vrai.
Oui, mais le nouveau Broly est en soi très bien. Après, pour faire une parenthèse super sur le personnage de Broly, il manque un côté horrifique au personnage.
Ouais.
Ce côté horrifique qu'on avait dans les premiers films manque cruellement au dernier film de Broly, mais il aurait eu ce côté-là un peu horreur vraiment, par exemple sur la planète Vegeta, hein, où il voyait tout le monde se faire massacrer. Ça aurait pu être incroyable, on le voyait survivre comme dans le premier film où il parle son père à bout de bras.
Ouais, non,
incroyable.
Mais là, Après, il y a toujours l'histoire du père qui meurt et qui l'a déclenché justement sur Super Saiyan.
Exactement. Ça reste la base hein, après hein, de l'histoire de Broly. C'est les fondations même du personnage.
Exactement. Hein. Ouais.
La haine de Broly provient quand même qu'il entendait Goku pleurer à côté de son berceau et qui c'est le voisin un peu trop bruyant quoi. Donc ne faites pas de tapage nocturne à côté de Broly. Un conseil.
Déconseillé.
Voilà, fortement déconseillé. Venons d'ailleurs à la question dont on a parlé tout à l'heure. Goku ou Vegeta, quel est le meilleur personnage qui est le grand gagnant de cette grande rivalité qui poursuit l'œuvre du manga depuis l'arrivée de Vegeta? Puisque, sachons-le et rappelons-le, le personnage de Vegeta ne devait pas survivre à la base. Akira Toriyama n'aimait pas ce personnage, il voulait s'en débarrasser. À l'arc de Freezer, il ne devait pas revenir. Sauf que les fans l'ont tellement adoré, l'ont tellement aimé, que bah, le créateur du coup l'a fait garder dans le manga. Donc, ce personnage qui n'était pas prévu aussi longtemps à la base a réussi à conquérir les fans, mais on maintient quand même que Goku est plus fort malgré peut-être les devancées de Vegeta à certains moments, comme le fait qu'il obtient son Super Saiyan tout seul, qu'il obtient son Super Saiyan 2 tout seul, qu'il obtient toutes ses réussites et toutes ses puissances crescendo tout seul et non par la force du scénario, entre guillemets, aidé avec Goku. Donc le débat est lancé, Pierre-Alexis, je te laisse commencer. Goku ou Vegeta, le meilleur personnage ou le plus fort?
C'est compliqué comme question. Mais si on se base seulement sur ce qu'on a vu avec Dragon Ball Z, donc pas super.
Exactement.
Je dirais que déjà, il y a un argument que Goku a déjà le Super Saiyan 3.
Mm-hmm.
que Vegeta n'a pas. Mais effectivement, Vegeta a beaucoup, s'est beaucoup entraîné pour attraper bah, l'écart de puissance comme avec Goku. Parce qu'ils bah, sont rivales et du coup, bah, il s'est dit, faut que je sois le premier.
Exactement.
Faut que je sois le premier, c'est moi le prince, c'est moi... Enfin, l'ego de Vegeta,
quoi.
La fierté, exactement. Du coup, je pense que Goku aussi a fait beaucoup d'entraînement depuis mm-hmm. tout jeune.
Je pense que Goku a arrêté de s'entraîner vraiment au début de Z, hein. Après qu'il s'est fait entraîner par Kaio.
Ouais, c'est vrai.
Bah si, on pourrait dire dans le vaisseau quand il va à Namek, mais après,
ouais.
En soi.
Mais après, il y a eu le Super Saiyan, donc...
C'est ça, c'était la botte secrète un peu à tout. Hein. Le Super Saiyan, c'était un peu le remède...
Ouais, c'était le gain de puissance qu'il fallait pour tout simplement... leur super pouvoir à la race Saiyan, hein, tout
exactement.
Simplement. Donc, en vrai, pour répondre au débat, je dirais quand même Goku, pour mm-hmm. ce qui est de Z.
En termes de puissance ?
En termes de puissance.
Et en termes de personnage ?
En termes de personnage, Goku, bon, ça reste le personnage principal en soi de l'œuvre.
Mm-hmm.
Mais Vegeta, en tant que personnage rival...
Anti-héros, shonen, un petit peu.
D'une certaine manière. Je pense que... Effectivement, je pense qu'on... En vue de sa personnalité, le fait qu'il en veut, le fait que...
Pour moi, Vegeta devient vraiment un héros que dans l'arc Bou, en fait.
Avec son sacrifice.
Avec son sacrifice où il montre qu'il est un héros.
Sacrifice que tout le monde a oublié, à part Piccolo.
Exactement.
C'est vrai.
Faut pas oublier.
Et c'est un sacrifice non seulement inutile, mais bon, nous, il nous aura bien marqué au moins.
Oui, c'est vrai. Donc je pense que, pour répondre, Vegeta, pour ce qui est de sa personnalité et de son développement,
mm-hmm.
mais en termes de puissance, quand même Goku.
D'accord. Et toi, François ?
Alors, pour moi, Goku est plus fort que Vegeta.
Mm-hmm.
Comme a dit Pierre-Alexis, il a le Super Saiyan 3. Après, en termes de puissance, Vegeta, il est supérieur à Goku. Comme on a vu lors de la première confrontation, Goku avait besoin de son Kaioken contre Vegeta.
Kaioken x4 et ensuite x10. Quand il fait son Kamehameha final.
C'était juste le x4.
C'était le x4 ?
C'était juste le x4.
Quand il fait son Kamehameha, il rajoute pas le x10 ?
Non, c'était x10. X10 ? Ok.
C'était x10. Ouais,
mais juste à la fin, juste pour le Kamehameha, pas pendant le combat avant. Juste le Kamehameha final, je crois qu'il se met en x10 pour vraiment tout donner.
Ouais, à la fin,
et ensuite, il s'écroule.
Ok, bah mes souvenirs, c'était x4. Bon, bah comme vous voulez, x10.
Comme quoi, même Wikipédia peut se tromper.
Ça arrive, hein.
Ouais, et du coup, alors que Vegeta, il avait juste son Kadon Garik, sa technique... qui envoie une boule d'énergie. Enfin,
la technique de Saiyan.
Ouais, de sa technique de Saiyan. Mais en termes de technique, Goku est supérieur. Il a plus de technique, le Taioken.
Ah, je pense qu'ils ont autant de techniques l'un que l'autre, en vrai. Parce que Goku, il a son Genki-Dama, son Kamehameha, le déplacement instantané. Et Vegeta, il a son Final Flash, Kanon Garik. Il a ses petites techniques quand même en réserve.
Le point du dragon.
Ah, Goku, il a le point du dragon, c'est vrai.
Après. Sans oublier les techniques de ses compagnons aussi, à Goku. La morsure du soleil.
Ouais, c'est vrai. Taioken.
Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il s'est inspiré beaucoup de ses. De
mais
ses
heureusement que, comme le souligne François, que Goku, il a été vachement aidé pour battre Vegeta lors du premier
aussi,
arc.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Parce que merci Krillin, Gohan et toutes ces personnes qui ont été là pour aider Goku, parce que sinon Goku.
Même Yajirobe, le petit samouraï, le gros samouraï.
Yajirobe, oui, personnage oublié, alors qu'il a fait un. C'est lui qui coupe la queue de Vegeta quand même.
C'est ça.
Après, il y a Tenchihan aussi qui était là.
Oui, alors du coup, on disait. Non, parce que Tenchihan, c'est comme Chaizu, tu vois, c'est un peu oubliable. Tout ce qui est.
Tenchihan, il a été vaincu avant la confrontation.
Vrai. Il a même pas confronté. Il a même pas confronté.
Après, on n'oublie pas que quand même Vegeta, à cet affrontement, c'est comme transformer en Uzaru pour essayer.
C'est vrai.
De vaincre
c'est vrai.
Goku. Hein.
Le vaincre ou le manger, on ne sait pas trop.
Oui, bon, faire quelque chose en tout cas.
C'est vrai.
Et toi, Ryan, Goku ou Vegeta? Parce que toi, François, à moins que tu voulais rajouter quelque chose, excuse-moi.
Non, c'est bon.
Ok. Donc vas-y, Ryan, dis-nous.
Plus Vegeta.
Vegeta, développe.
Bah, en soi, comme il a expliqué François et Pierre, c'est quelqu'un qui s'est débrouillé tout seul pour avoir ne serait-ce que ses transformations et il n'a pas eu besoin de beaucoup de monde pour avoir certaines techniques. Il s'est débrouillé tout seul.
C'est vrai.
Mais en soi, vu qu'il c'est un prince de Saiyan, donc il a eu beaucoup d'entraînement, ne serait-ce que dans... Il s'est entraîné avec l'armée de Freezer, tout ça, donc en soi, il a eu beaucoup de choses. Mais en soi, pour avoir Super Saiyan, tout ça, il s'est débrouillé tout seul.
Il a travaillé, il a charbonné très très dur, Vegeta.
Bah, il y a certains épisodes où il monte vraiment, où il est vraiment tout seul sur un rocher pour se débrouiller.
Il est le seul à avoir la transformation, les muscles surdéveloppés c'est avec Trunks. Ouais,
Le super...
Super Saiyan.
Ouais, c'est ça.
Freezer, Cell et Boo, quel est le meilleur méchant de Dragon Ball Z? Toi, Ryan?
Moi, je t'aurais dit, les premiers méchants qu'on a vus, c'est l'armée du ruban rouge.
C'est vrai, ça.
L'armée du ruban rouge, effectivement. Vas-y, développe-nous.
Bah, en soi, c'est le début du commencement qui fait que là, Goku, vraiment, commence à se combattre. Parce que c'est vraiment, quand il était temps... C'était une vraie menace, l'armée du ruban rouge.
Donc, puis, le cas dans Dragon Ball Z, puisque l'armée du ruban rouge a créé Cell, vu que c'est Dr. Gero, le scientifique... du ruban rouge qui a créé à tous les cyborgs, donc c'est 17, c'est 18, c'est 19 et tout ça.
Tous les C-trucs,
exactement.
Il y en a beaucoup.
Il y en a trop. Ouais.
Et toi, François?
Pour moi, ça reste Freezer, tout simplement parce que quand il a détruit la planète Vegeta, il l'a fait par plaisir, honnêtement.
Par sadisme.
Il était tellement heureux de voir la planète Vegeta exploser, carrément. Comme il a dit, c'est un feu d'artifice, un beau feu d'artifice, alors qu'il a tué des milliards de Saiyans.
Krillin confirme tes propos. Exploser comme en confetti.
C'est très sale.
Exactement. Donc ouais, pour moi, ça reste un méchant...
Le plus emblématique. Pierre-Alexis?
C'est pareil, hein, Freezer.
Freezer aussi.
C'est le méchant qui a marqué tout le monde, quoi. Par son rire, déjà.
Un rire machiavélique.
Exactement. De par son développement, le fait que c'est vraiment...
Un méchant pour être méchant.
Exactement, il n'y a pas d'autre mot. Alors que Cell et Boo, bon, il y a une part gentille en eux. Et oui, même pour Cell, bon, on peut le pardonner sur le fait que c'est quand même un enfant qui vient d'arriver. Il a été... programmé, entre guillemets, pour évoluer, donc il a...
C'est ça, puis à savoir que, de ce que j'ai compris... on a trois Cell, en fait, exactement. On a le Cell qu'on voit dans Dragon Ball Z, qui est un Cell du futur. On a le Cell de Mirai Trunks qui tue dans son futur à lui. Et on a le Cell qu'on voit dans les derniers films Dragon Ball Super Heroes. Donc on n'en parlera pas, mais c'est qui est le Cell de la timeline présente. Donc trois Cell, exactement, dans Dragon Ball.
Comme quoi il a marqué.
C'est ça.
Mais Freezer. Totalement Freezer, de par toutes ses formes. Le fait que Goku, il a quand même bien galéré pour l'affronter.
Bien galéré, ouais.
Même pour Boo, effectivement.
Ah, il a vraiment plus galéré pour Boo, mais après, bon, c'était le troisième méchant. Il fallait qu'il soit plus puissant que les deux derniers.
Toujours plus puissant. Hein.
Après, est-ce que Boo est plus fort que Freezer? Telle est la question. Majin Boo, est-il plus fort que Freezer?
Il y a plusieurs versions de Boo.
C'est vrai qu'il peut absorber qui veut.
Est-ce que si Boo avait absorbé Freezer, on n'aurait pas eu un truc cheaté?
Je pense que t'aurais pris la dernière transformation de Boo, donc le Boo enfant. Je pense qu'il aurait pu faire mal à Freezer.
Ouais, mais par contre, à savoir que le plus puissant forme de Boo, c'est Boo One. C'est la plus puissante forme de Boo, ça a été dit.
C'est pas Boo enfant, ça a été dit
même par le créateur. Ouais. Parce qu'il y a une preuve toute simple, et c'est mathématique en fait. Boo One. C'est la puissance de Boo, plus celle de Piccolo, plus celle de Gohan, plus celle de Gotrunks. Boo enfant, tu retires toutes ces puissances-là. Tu retires la puissance de Boo, Goten, Trunks et tout ça, celle de Piccolo. Tu retires toutes ces puissances-là, ça a donné Boo enfant. Donc en fait, mathématiquement, et même dans l'œuvre, ça a été dit que Boo enfant était beaucoup, beaucoup moins fort que Buan, qui était le summum de la puissance de Bou.
Dans l'animé, ça a été dit que le Bou enfant est plus fort. C'est la plus forte.
Dans VF.
En VF.
Mais pas en VO. C'est ça la différence.
D'accord.
Mais après, Kid Bou, le Bou enfant, c'était le plus fou en fait.
C'était le plus fou et le plus incontrôlable. Ouais. Preuve, il ne parle même pas. C'est une bête.
Ouais, c'est une bête.
C'est une bête sauvage,
c'est
tout simplement.
Qui est là pour détruire.
Totalement.
Comme tout le monde à cette table, j'aime Dragon Ball, j'aime ses personnages, j'aime son univers et ses moments marquants, ses personnages marquants comme ses méchants. Tout d'abord, Freezer, on en a parlé. Comment parler du racisme à travers un personnage? C'est Freezer, voilà, le paroxysme même du racisme envers les Saiyans, de la même à repousser Goku dans ses pires retranchements. Écoutons donc cette petite extrait qui obligea Goku à se changer pour la première fois en Super Saiyan. Écoutons ensemble.
Non, Freezer, ne fais pas ça!
Goku!
Qui est-ce cette voix?
Krillin. Maintenant, au tour du gamin.
Tu vas le payer.
Gohan, prends Piccolo avec toi et rejoins Bulma. Une fois que vous aurez retrouvé le vaisseau, retournez sur Terre.
Dépêche-toi, Gohan. Fais ce que je te dis avant que je ne perde le peu de raison qu'il me reste.
Oui.
Une scène donc bien évidemment marquante, peut-être même la plus marquante de Dragon Ball pour beaucoup. À titre personnel, ce n'est pas celle-ci, mais celle que j'évoquerai un peu plus tard dans ma critique. Mais voilà, pour beaucoup, cette scène est la plus emblématique de Dragon Ball, la première transformation en Super Saiyan. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez vu les frissons? C'était incroyable, puis l'émotion avec la mort de Krillin juste avant.
Mais oui.
Ouais. On pensait que ça en finirait jamais, que Freezer était juste invincible.
Ah, le meilleur habit de Goku qui se fait exploser en rien.
C'est ça. Puis le non-respect, c'est un enfant. Il a 22 ans, Krillin, s'il te plaît.
Même Goku, je crois, il dit ça se fait pas de tuer un enfant.
Exactement. Il dit ça se fait pas de tuer un enfant. Krillin, il est plus vieux que moi quand même dans le manga à l'heure actuelle.
Totalement. Mais il a un peu plus même.
Il a 22 ans, exactement.
Il a 22.
Ouais, 22 ans.
Il a 22.
Ça a été. J'ai vu ça avec le chef Otaku, donc un youtubeur qui parle de manga et de rétrospective, beaucoup de Dragon Ball. Et donc c'est à travers ce youtubeur-là que j'ai eu l'information que Krillin avait 22 ans durant l'arc Namek.
Ok. Bah en tout cas, oui, on s'en souvient de par les éclairs, la mise en scène, hein, tout simplement.
Exactement.
Comme quoi on sent vraiment une montée en puissance, les cheveux dorés qui se redressent, les yeux verts ou bleus, ça dépend.
Ça dépend.
Ouais. Mais oui, on s'en souvient.
Ensuite, nous avons eu un autre méchant qui parlait plutôt cette fois des limites et des dangers de la technologie, de l'avancement de la technologie avec les personnages de Cell et du Dr. Gero. Et puis voilà, Cell, on en a parlé, c'était pas vraiment un méchant, il n'avait pas de but vraiment maléfique. Il l'explique d'ailleurs à Piccolo dans une scène, écoutons d'ailleurs son récit et son histoire.
Dans le monde futur d'où je viens, C-17 et C-18 n'existent pas. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. C'est parce qu'ils avaient déjà été vaincus par Vegeta. Heureusement pour moi, Trunk possédait une machine à voyager dans le temps. Je me suis débarrassé de Trunk et je suis monté dans cette machine pour arriver jusqu'à ton époque afin de me mettre à la poursuite de C-17 et C-18. Mais pourquoi tu choisis précisément cette époque? Aucune idée. Au hasard, je n'ai fait qu'appuyer sur un bouton. Je suppose que la machine avait déjà été programmée à cette époque-là.
Tout s'explique. Trunk prépare la machine dans le but de venir nous annoncer qu'il a détruit les cyborgs dans le monde futur. Mais manque de chance, cette satanée bestiole prend sa place. Génial, on n'aurait pas pu trouver pire.
L'ordinateur a également ajouté quelque chose.
Hein?
Il m'a dit qu'une fois que j'aurai emmagasiné toute l'énergie dont j'ai besoin, je deviendrai invulnérable.
Tu en as envie à ce point-là? Mais pourquoi cherches-tu si désespérément à posséder de tels pouvoirs?
Tu veux une raison? Mais tu es plus bête que je ne croyais. C'est très simple. L'ordinateur qui m'a créé avait été programmé pour construire le robot le plus puissant qui ait jamais existé, grâce à toutes les données relevées sur vous.
Mais qui sait, il y a peut-être une autre raison, et si c'était à cause du sang qui coulait dans les veines de tes amis et qui maintenant me permet de vivre.
Et donc voilà pour les explications de Cell pour ses motivations. Nous avons eu donc les motivations du personnage de Cell, ou l'acceptation du côté sombre et de la contrôler avec Boo qui affronte son lui maléfique, qui affronte vraiment tout son côté obscur, on peut dire. C'est une scène qui nous a été racontée par Piccolo avec Dende, écoutons.
Il se passe quelque chose, on devrait aller voir.
Inutile, je sens la présence d'un nouvel individu à l'esprit maléfique, l'énergie qu'il dégage est immense. Et je suis prêt à parier que cette créature représente tous les mauvais côtés du premier Boubou. C'est un peu la bataille du bien contre le mal.
Donc voilà pour les explications de l'arc un peu Boubou qui était ça. On a Vegeta qui affronte son côté obscur, on a Boubou qui affronte son côté obscur, on a Vegeta qui fait face à ses responsabilités avec Gohan, Goten et tout ça. Beaucoup de choses développées sur le côté sombre et lumineux des personnages. Mais voilà, Dragon Ball a travaillé énormément de thèmes, a parlé d'énormément de choses. Je pense que l'un par exemple des duos les plus marquants de Dragon Ball est celle de Piccolo et de Sangohan. Comme nous l'a dit tout à l'heure François, Piccolo qui est un peu un second père pour Sangohan, mais qui est vite devenu un peu son premier père au final, puisque Goku ne s'occupe pas vraiment de ses enfants, on le sait. La première rencontre ne laissait aucun présage de ce lien fort qui allait les unir, puisque, rappelons-nous, la première discussion entre Piccolo et Sangohan, écoutons.
Ça suffit, arrête de faire l'imbécile, écoute-moi.
Je vous connais pas, vous. Où il est, mon papa? Papa, au secours! Viens vite me chercher, je suis tout seul avec un vilain monsieur, il a pas l'air gentil. Au secours, papa! Mon papa tout de suite!
Quel brailleur, ça commence bien! Ça suffit maintenant, dites-moi! On est assez! Ou tu t'arrêtes de pleurer ou je te tords le cou, t'as compris? Voilà qui est mieux. Maintenant, tu vas écouter ce que j'ai à dire. Bien. Il va falloir que tu sois très courageux. Ton père est mort, et son adversaire aussi, fort heureusement. Il s'est sacrifié pour toi et pour sauver le monde, et il est mort en héros.
Mon petit papa.
Attention, tu sais ce que je t'ai dit. Si jamais je t'entends encore pleurer, je te casse le cou. Je suppose que tu as déjà entendu parler des 7 boules sacrées du dragon. Les amis de ton père sont partis à leur recherche, car une fois réunis, elles pourront lui redonner la vie. Donc tu reverras ton père, mais ce jour-là, il faudra qu'il puisse être fier de toi, et il faudra qu'à ton tour, tu puisses lui sauver la vie. Dans un an, jour pour jour, les frères de combat de Raditz tenteront de venger sa mort. Et si tu n'es pas là pour te battre à nos côtés, ton père mourra de nouveau, et cette fois, rien ne pourra le sauver, et la terre tout entière sera anéantie. Tu as un an pour te préparer au combat.
Donc voilà, Piccolo, le roi de la pression.
Totalement. Il nous a appris que... En fait, c'est pas comme ça qu'il faut éduquer les enfants.
C'est ça, donnez-leur des bosses tarnioles et puis donnez-leur des bons concrocs de pression. Vous verrez, il vous aimera pour le reste de sa vie. Ensuite, nous avons eu un événement dans Dragon Ball Z qui sont les fusions. Les fusions, ce que j'aime là-dedans, c'est peut-être le symbolisme du fait que deux personnes tellement complices, tellement synchro entre eux, puissent former qu'un seul et même être. C'est un peu le symbolisme que j'y vois derrière. Et puis, n'oublions pas quand même que la première fusion de Goku et de Vegeta qu'on a vue avec le personnage de Gogeta, je ne parle pas de Vegeto, là j'ai préféré montrer l'apparition de Gogeta pour la première fois, Gogeta étant ma fusion préférée, souvenez-vous.
Fusion !
Merci Paul, on prend le relais. Tu ne me connais pas, je ne suis ni Sangoku ni Vegeta. Et je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer.
N'oublions pas la tragédie aussi dans Dragon Ball, avec l'histoire de Mirai Trunks et de Mirai Gohan, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Toute cette haine qu'a Trunks, et puis la première transformation de Mirai Trunks en Super Saiyan, est due à son attachement envers Sangohan. Et puis rappelons-nous quand même de leur dernière conversation.
Oh, regarde la ville! Ça, c'est l'œuvre des androïdes. Je vais les détruire! Je viens avec toi. C'est hors de question, Trunks. Toi, tu restes ici, c'est clair?
Non. Si tu vas les affronter, je veux venir avec toi. Je suis suffisamment fort maintenant.
D'accord, je vois. C'est bon, viens avec moi. Tu es prêt à passer à l'attaque?
Oui.
Donc voilà comment Mirai Gohan s'est débarrassé de Trunks pour pouvoir affronter C-17 et C-18 du futur, tout seul, sans mettre en danger son meilleur ami qui est Trunks. Ouais. Nous avons ensuite, pour moi, la scène la plus marquante de tout Dragon Ball, qui est pour moi une scène emblématique qui marquait un renouveau. C'est, on en a parlé, la transformation de Sangohan en Super Saiyan 2. C'est une scène que beaucoup affectionnent et que beaucoup aiment. Donc écoutons-la juste pour notre plus grand plaisir tous ensemble.
Sangohan, viens au secours de ceux qui t'aiment. Promets-moi d'épargner la nature et les animaux. Je ne vous oublierai jamais. J'ai confiance. Tas de ferraille.
Le simple plaisir de la musique, quel,
c'est bien
quel plaisir.
Ah, totalement.
La musique, elle a tout fait aussi. Hein.
Bien sûr, marquante au possible. On a tous les images en tête, je pense qu'on re-entend cette scène avec l'oiseau qui commence à voler, le filet rouge, puis le déchirement de Gohan. Ouais, le déchirement colère, de Gohan, la colère.
L'innocence qui crie vengeance.
C'est ça, c'est tellement ça. Beau. C'est ça en plus, c'est la vengeance. Avec l'innocence est définitivement morte. Puis le Kamehameha final à Père-Fils, puisque père-fils. N'oublions pas le sacrifice de Sangoku lors de cet arc contre Cell. Bon, un sacrifice malheureusement inutile, mais qui en était pas moins dénué d'humour quand il l'envoie sur la planète de Kaio. Mais avant cette scène humoristique, moi je trouve qu'on a eu une petite scène de déchirement quand même, puisque je pense que Goku devait vraiment mourir à ce moment-là dans l'arc, c'était pas prévu qu'on le ramène plus tard, puisque le créateur avait annoncé... C'est des rumeurs que j'entends, qu'à la base, le manga devait se terminer avec Freezer. On lui a demandé de continuer, il a fait l'arc Cell, ça devait être la fin. Et on lui a demandé de continuer encore, il a fait l'arc Boo, et puis on sait maintenant, aujourd'hui, on a eu GT, on a eu Super, on a eu des films, ça s'arrête jamais.
Oui.
Mais voilà, cette scène qu'on va écouter tous ensemble, du déchirement de la mort de Sangoku à ce moment-là, une très belle scène, écoutons.
Je suis très fier de toi, mon fils, tu t'es battu comme un chef.
Papa, attends!
Je compte sur toi pour veiller sur ta mère. Dis-lui que je l'aime. Et que là où je vais, je ne l'oublierai jamais. Adieu, Sangohan!
Chérie!
Non, attends!
Le cri de déchirement de Gohan, de Krillin, de Piccolo à la fin, stupéfait du sacrifice de Sangoku.
Encore une fois.
Encore une fois. Mais n'est plus le seul héros prêt à donner sa vie pour sauver la Terre, puisque comme Ryan nous l'a si souvent rappelé durant le débat et l'émission, puis je le comprends, une de mes scènes préférées, une de mes scènes cultes, c'est le sacrifice de Vegeta face à Boo. Quand il est en Majin, quand il abandonne complètement le côté sombre pour moi, c'est ce moment précis où il devient véritable héros, rappelons-nous.
Toi être insignifiant, Boo va te transformer en chocolat. Non, plutôt en bonbon. Boo va te manger tout cru.
J'ai la solution pour te vaincre. La clé est de te pulvériser de telle sorte qu'aucune régénération ne soit ensuite possible.
Ouh.
Au revoir à tous, Bulma, Trunks, et même à toi, Kakarot.
Petite parenthèse pour le doubleur Éric Lecran, je crois que c'est...
Un grand doubleur.
Un très grand doubleur. Et pour moi, la meilleure VF de Dragon Ball, c'est Vegeta. Pour plein de raisons, dont celle-là, le cri de déchirement. On voit que les doubleurs se donnent à fond quand ils sont dans les studios. C'est une scène totalement incroyable, pleine d'émotions.
Totalement, totalement.
Nous avons aussi une scène tout aussi marquante, un peu longue, un extrait assez long, 3 minutes 3 d'extrait. Mesdames et messieurs qui nous écoutent à RVM, mais c'est un extrait pas moins important puisqu'il nous explique toute l'évolution de Vegeta. C'est bien sûr la scène où Vegeta déclare toute son amitié à Sangoku quand il se combat face à Buu, donc sur la planète Kaioshin, où tout espoir est perdu et Goku donne ses dernières forces au combat. Vegeta décide de déclarer ce qu'il ressent au plus profond de lui envers son plus grand rival, Sangoku.
Tu ne manques pas de courage, Sangoku. Je t'admire. Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de te battre. Ne la laisse pas filer. Tu te souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Enfin, te voilà! On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tu ne vas quand même pas défier le prince des super guerriers en personne. Tu es tombé sur la tête, ma parole. À ta place, je rentrerai gentiment chez moi.
C'est un cauchemar! Je fais partie de l'élite des super guerriers! Je ne peux pas perdre! Surtout contre lui! Il va me le payer! Ma vengeance sera terrible! Tu ne perds rien pour attendre!
Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. D'après la légende, un homme sur mille devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner à améliorer ses performances. Je me suis trompé. La puissance de Son Goku est phénoménale. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. Seulement, c'était peine perdue. Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance, Son Goku, se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais, même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku.
Donc voici cet extrait, certes qui était long, mais nécessaire pour le développement de personnages de Vegeta. C'était un extrait qui m'aura beaucoup marqué, je pense, dans mon top 3 de mes scènes cultes, puisque c'est là qu'on voit toute l'évolution de son personnage. Je sais pas ce que vous en pensez. Pierre-Alexis, je te laisse parler en premier.
Bon, c'est sûr que la déclaration de Vegeta, comme quoi... là, c'est bon, il n'y a plus la fierté, quoi. Là, clairement, il parle avec le cœur.
C'est
il
ça.
Parle d'un ami, hein, tout
c'est
simplement.
Ça, il parle en tant qu'ami et puis en tant que rival.
Oui, tout simplement. Donc c'est sûr que oui, ça a plus que du sens et c'est une scène inoubliable. Hein.
Et toi, François?
Ah, cette déclaration a été très touchante de la part d'un guerrier sans pitié, de base, et maintenant qui ouvre son cœur.
C'est des frères d'armes maintenant, ce n'est plus des rivaux, c'est des frères d'armes, un peu à l'image de beaucoup de personnages qu'on a dans le manga, comme le fils Zoro un petit peu.
Sasuke, Naruto,
beaucoup plus, oui j'avoue, c'est le meilleur exemple qu'on peut trouver. C'est un meilleur exemple. Comme nous le disait Pierre-Alexis, Naruto, Sasuke, effectivement, deux grands rivaux aussi, avec pas forcément le même développement, mais dans l'idée, c'est assez ça. Excuse-moi Ryan, je t'ai pas demandé, parle-nous du coup de la scène.
Ça, c'est sûr que dans Dragon Ball, c'est la rivalité la plus grosse. De Goku et Vegeta, c'est la rivalité la plus grosse. Parce qu'en soi, on sait que y a eu énormément de combats entre ces deux-là. Et en soi, c'est vraiment une rivalité qui a marqué, on va dire, du début de l'arrivée de Vegeta jusqu'à la fin. Il y a eu vraiment beaucoup de combats entre eux. Mais en soi, on passe du Vegeta méchant au Vegeta gentil, qui s'exprime plus en tant qu'ami qu'en tant qu'ennemi, mais en soi, il y a toujours cette rancœur de qu'il a voulu toujours être le premier comparé à Goku.
C'est son obsession d'être le numéro 1.
Parce qu'en soi, c'est Goku pense plus à s'amuser, tandis que Vegeta est beaucoup dans l'entraînement. Et en soi, Vegeta s'est entraîné énormément avec l'armée de Freezer et l'élite des Saiyans. Donc
c'est
en
vrai.
Soi, tandis que Goku n'a pas eu beaucoup d'entraînement comparé à Vegeta.
Exact. Pour terminer, nous avons eu aussi des moments humoristique, des moments épiques, mais aussi des moments assez émouvants. C'est une petite scène que j'ai trouvée, que j'affectionne un petit peu. La première rencontre de Sangoten et de Sangoku quand il revient du royaume des morts. C'est un petit extrait, écoutons-le tous ensemble, attendrissant. J'aime beaucoup cette scène.
Papa !
Oh mon Dieu ! Tu m'as tellement manqué !
Toi aussi, tu m'as manqué, Chichi. Oh ?
Oh ?
Sangoten, va donc embrasser ton papa.
Quoi ? Tu veux dire que c'est mon fils ? La ressemblance est frappante, mais je ne savais pas que j'avais un autre fils.
Bonjour, papa.
C'est mon papa !
Eh bien, quel gaillard ! Tu m'as l'air d'être un sacré petit coquin, toi.
Voilà, une petite scène attendrissante qu'on a eue dans l'œuvre. Et puis voilà pour la critique de Dragon Ball. Dragon Ball, considéré comme le papa du shonen, a marqué des générations et en marquera encore d'autres, que ce soit ses personnages, ses répliques, ses combats. Merci à Toriyama, malgré des suites telles que GT ou Super, j'aurais vécu Z au prime de ce que ça aurait été. Je l'aurais vu, je l'aurais vécu, bien avant Super plutôt, vu que j'étais né après, mais je n'ai pas eu cette hype comme j'ai pu l'avoir comme avec Z. Et merci à Toriyama pour nous avoir offert peut-être le plus grand des mangas, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas le plus grand. Un mot de conclusion, Pierre-Alexis, vas-y.
Esprit shonen, esprit super saiyan, Kamamea, tout ça.
Merci. Oui. Et toi, François ?
Akira Toriyama, qui est un grand mangaka, de base... ça devait se finir par Dragon Ball, malheureusement. Enfin, heureusement plutôt, ouais. Heureusement, il a continué. Mais à l'improviste, alors on peut le considérer comme un génie.
Exactement, l'arc Cell et l'arc Buu ont été improvisés. Donc il en fallait de l'inspiration.
Ah oui, il en fallait.
Alors, et toi, Ryan ?
En soi, c'est vraiment un manga très marquant. Parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont marquantes. Ne serait-ce que en VF, ça passait avec Dorothée, je crois. Je suis pas sûr.
Sur le club Dorothée, voilà. Exactement, à l'époque.
Donc, j'ai commencé grâce au jeu. J'ai connu Dragon Ball, donc avec l'armée du ruban rouge, tout ça. Mais en soi, c'est vrai que le manga est très marquant. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un manga à suivre parce qu'il y a encore de l'animé.
Il y a encore du super aujourd'hui. Jeu, Budokai Tenkaichi 4, qui aura été annoncé. Et un Xenoverse 3, mais petite préférence pour Budokai Tenkaichi 4, hein, qui est le grand rêve des fans, le grand retour de cette licence, qui nous aura tant fait rêver de retour prochainement. Nous n'avons pas de date précise à l'heure actuelle où je vous fais cette émission. Merci de votre écoute et de votre fidélité. C'était Melvin, accompagné de Pierre-Alexis, François, Johnny et Ryan. Merci à vous d'être venus.
Merci à toi de nous avoir invités.
Merci à toi pour l'invitation.
À la prochaine pour d'autres critiques. Au revoir. Les Chroniques de la Plume.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Le roi des pirates, ce sera moi!
quoi cet air si sérieux?
Poupi 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 pou, poupi 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 pou, poupi